Salut, c'est encore Murray. Écoutez, plus vraiment drôle votre histoire de campus fermé. J'ai juste un sac de chips à moitié vide puis un crème soda avec moi, fait que je commence à avoir faim. Est-ce que quelqu'un peut venir me débarrer, s'il vous plaît?
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. En ce 1er juillet, j'aimerais vous souhaiter une bonne fête du Canada, que vous soyez en train de célébrer le tout en profitant de la température ou que vous soyez en train de déménager, il faut rester sur les ondes de CHIZ 94.3, car ce soir à l'émission, nous recevons l'anthropologue M. Daniel Clément pour une émission sur l'analyse basique en anthropologie, une démarche qu'il a utilisée et développée lors de ses recherches. En compagnie de M. Clément, ce soir, nous explorerons donc quatre grands domaines de l'anthropologie, soit la mythologie, le rituel, la technologie et l'organisation socio-parentale. Et ce, en 60 minutes, donc une émission fort intéressante s'annonce, il faut rester à l'écoute. Ce soir, à l'animation, vous vous retrouvez en compagnie de Amy Bois, étudiante à la maîtrise en histoire. Sans plus tarder, je vous présente plus en détail notre invité, M. Daniel Clément, anthropologue qui a concentré ses recherches sur les Autochtones, le savoir environnemental et, comme je l'ai annoncé il y a quelques secondes, les mythes, les rites, les techniques et l'organisation socio-parentale. M. Clément a été conservateur d'ethnologie au Musée canadien des civilisations et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Il a enseigné dans diverses universités, dont l'Université Laval et l'Université Paris 10, et il est actuellement consultant en anthropologie. Au cours des dernières années, il a fait paraître plusieurs ouvrages, dont un aux presses de l'Université du Nebraska et 8 aux presses de l'Université Laval. Aux presses de l'Université Laval, justement, il dirige la série Récits de notre Terre, qui fait partie de la collection Traditions orales, une série qui comprendra 11 volumes au total, dont 4 ont déjà été publiés. Ayant une double formation en littérature à l'Université d'Ottawa et en anthropologie à l'Université Laval, M. Clément a également publié plusieurs poèmes, justement très en lien avec le monde environnant, ce dont on aura l'occasion de parler dans l'émission, mais aussi des romans humoristiques, et il détient sa propre maison d'édition, les éditions du Wampum. C'est notamment lors d'un événement littéraire à Trois-Rivières que j'ai pu échanger pour la première fois avec M. Clément et que j'ai lancé l'invitation à l'émission. Alors bonsoir M. Clément et bienvenue aux 3600 secondes d'histoire.
Bonsoir.
En 2017, aux presses de l'Université Laval, vous avez fait paraître l'ouvrage « L'écho des autres, l'analyse basique en anthropologie », qui est le sujet central de l'émission de ce soir. Nous allons donc survoler ensemble votre publication, un ouvrage que j'ai trouvé fort intéressant et fort bien écrit, dans lequel vous utilisez la démarche basique, ou plutôt l'analyse basique. Donc, c'est une démarche grâce à laquelle vous vous êtes penché sur quatre grands domaines de l'anthropologie que j'ai énoncés précédemment. Dans l'écho des autres, vous dégagez ainsi l'essence, signification des mythes et de rituels autochtones, et ce, à l'aide de nombreux exemples que vous tirez de peuples autochtones d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Australie, d'Europe et du bassin méditerranéen. Donc, par la multiplicité d'exemples qu'il y a, j'ai trouvé que c'était un ouvrage très riche. Vous revenez également sur un aspect que j'ai trouvé fascinant, soit les techniques, ou plutôt l'origine des inventions humaines, ce dont nous aurons l'occasion de parler dans la dernière partie de l'émission. Vous explorez également dans votre ouvrage l'organisation socio-parentale de peuples autochtones. Étant moi-même peu familière avec l'anthropologie, j'ai trouvé que c'était une étude fascinante et j'ai été fort intriguée par votre démarche, l'analyse basique, ce dont nous aurons amplement le temps de discuter ce soir. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Clément, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à écrire l'ouvrage « L'écho des autres, l'analyse basique en anthropologie ».
Bon, je vais commencer, ça remonte à loin, là. C'est lorsque je faisais ma maîtrise et mon doctorat, je me suis intéressé au savoir Innu. Les Innu, c'est des montagnais de la Côte-Nord, sur les plantes et des animaux. Je m'étais fait des petits fichiers, là, comme n'importe quel universitaire, là, avec des informations de plusieurs sources. D'abord, des données qui venaient de mes entrevues avec les Autochtones, ensuite, des données de la science occidentale, et à côté, des mythes que j'avais analysés, classés, etc., par éléments. Et je me suis rendu compte, en combinant tous ces éléments-là, qu'ils se retrouvaient dans les mythes beaucoup de choses que les scientifiques admettaient, mais sous un couvert différent là, de la science. Et c'est à partir de là que s'est développée une méthode d'analyse des mythes, et ensuite elle a débordé là, sur les rites, l'organisation socio-parentale et les techniques.
Donc un ouvrage un peu synthèse de la démarche que vous avez développée. Et pourquoi avoir choisi le titre « L'écho des autres »
Au début, quand j'ai soumis mon manuscrit à l'Université Laval, ça s'appelait seulement l'analyse basique en anthropologie. Je trouvais que c'était suffisant, simple et classique comme titre. Mais les presses de l'Université Laval voulaient un titre plus accrocheur. Les autres qui apparaissent dans le titre, finalement, c'est en anthropologie, c'est tout ce qui n'est pas occidental. C'est d'ailleurs un terme qui est très, très utilisé en anthropologie et qui distingue la sociologie de l'anthropologie parce que la sociologie a, par tradition, comme objet d'étude, notre propre société et l'anthropologie, les sociétés autres, bien qu'aujourd'hui, là, ça a tendance à se mêler un peu. Ça, c'est l'explication pour le mot « autre ». Pour « écho », j'ai jonglé avec plusieurs mots, mais j'en suis venu à la conclusion qu'écho reflétait bien ce qu'on perçoit des autres. C'est-à-dire qu'on les voit jamais réellement au premier abord comme ils sont. Un écho, c'est une réverbération. Alors, on voit quelque chose, mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de réel. Alors, il faut creuser un peu, il faut aller au plus loin que l'écho et aller à la source, d'où ma démarche d'analyse des sources, des mythes, des rites, etc.
Eh bien, personnellement, j'aime beaucoup votre titre « L'écho des autres ». Et quels enseignements souhaiteriez-vous que les lecteurs et lectrices retiennent à la lecture de l'ouvrage?
C'est difficile dans un ouvrage intellectuel de rendre compte de 35 années de travail et d'analyse, surtout d'une façon intellectuelle par rapport à des peuples de tradition orale qui sont à l'autre bout de ce continuum-là. Moi, j'ai beaucoup étudié sur le terrain. J'ai étudié plusieurs peuples. J'ai fait des séjours de terrain là, de mois d'affilée chez les Innus, les Cris, les Mi'kmaq, les Algonquins du Québec, les Ojibwés, les Septentrionaux en Ontario, les Gwich'in au Yukon, les Dalkés ou les Carrier en Colombie-Britannique et les Idatsa dans le Dakota du Nord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé à ce moment-là au Musée canadien des civilisations et ça m'a donné là, l'occasion de faire des travaux. Je travaillais sur le piégeage à ce moment-là. Je parle de ça parce que ce que j'aimerais que le lecteur ou la lectrice retienne de ça, c'est d'y aller eux-mêmes, comme je l'ai fait. Parce que c'est, à mon avis, la seule façon de comprendre réellement. C'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de vécu.
Dans tous les cas, personnellement, moi, j'ai eu une foule de questions lorsque j'ai lu l'ouvrage et j'espère qu'on va pouvoir en explorer plusieurs lors de l'émission ce soir. Écoutons déjà notre première pièce musicale de Leo Rojas ou Leo Rojas, selon la prononciation, The Last of the Mohicans, de l'album Spirit of the Hawk, sorti en 2012, une chanson qui met bien en évidence les sons d'oiseaux et la flûte, puisque l'artiste Rojas est un flûtiste très doué. Bonne écoute! Secondes d'histoire pour une émission sur l'analyse basique en anthropologie en compagnie de l'anthropologue M. Daniel Clément. Nous avons discuté précédemment de ce qui a amené M. Clément à la publication de L'écho des autres, mais aussi des enseignements qu'il souhaite léguer aux lecteurs et lectrices à la lecture de l'ouvrage. Alors, ce que je vous propose pour ce premier segment d'émission, c'est un survol du travail anthropologique et nous aurons l'occasion de parler mythes. Donc, question d'introduire nos auditeurs et auditrices. M. Clément, qu'est-ce que l'analyse basique en anthropologie?
En premier lieu, l'analyse basique, c'est pas une théorie, bien qu'elle va s'appuyer sur certains concepts théoriques. C'est une démarche. Alors, c'est une démarche d'analyse qui vise à dégager les fondements, les bases des éléments culturels qu'elle étudie, que ce soit dans les mythes, les rites, les techniques, les éléments socio-parentaux, voire dans d'autres domaines que j'ai pas explorés jusqu'à présent, mais j'entends le faire, comme en archéologie. L'analyse basique comporte un certain nombre de concepts. Alors, c'est important que j'en parle un petit peu, là, parce qu'après, je vais les utiliser, ces concepts-là. Parmi les plus importants, il y a les concepts qui délimitent le sujet de l'étude. Alors, par sujet de l'étude, là, par exemple, dans les mythes, on va prendre un élément mythique, et j'appelle cet élément mythique un mythème, formé à partir du mot mythe et thème, parce que c'est un thème mythique. Je fais la même chose avec les techniques, les technothèmes, avec les rites, les ritèmes et les éléments de la parenté qui sont les parenthèmes. Un autre concept très important est celui d'étymon, qui est emprunté à la science étymologique. L'étymon, en étymologie, c'est ce qui définit un terme, c'est ce qui est la source d'un terme. Alors, en analyse basique, c'est ce qui est à la source de l'image. Il faut faire attention quand je parle de source de l'image parce que je ne veux pas dire message du mythe ou morale du mythe qui est complètement différent. Je vais illustrer ça par des exemples. au fur et à mesure qu'on va parler, vous allez voir ce que je veux dire entre un étymon et un message qu'il y a dans un mythe. Il y a d'autres concepts aussi secondaires, mais ce sont là des détails, puis on va revenir un peu sur un d'entre eux au cours de cette entrevue-là.
Justement, c'est des termes que vous utilisez dès l'introduction, donc ça montre la pertinence d'en parler justement dès maintenant. Et lorsqu'on on lit, on parcourt votre ouvrage et même déjà dès l'introduction, on sent que l'environnement fait partie intégrante des mythes et rituels des peuples que vous avez étudiés. Par exemple, dans l'une des variantes du récit du poisson à valeur, dont celle des Objibwés septentrionaux, il est question d'un jeune héros nommé Jacques Abiche. Je ne sais pas si je le prononce bien, j'espère. Donc, Jacques Abiche, qui s'est fait avaler par un énorme poisson après avoir plongé dans une rivière pour récupérer l'une de ses flèches perdues. Donc, avant d'en parler plus profondément de ce récit-là du poisson à valeur, il m'apparaît important de revenir sur l'importance sociale et culturelle d'un mythe, parce que moi, j'étais un peu ignorante de l'anthropologie et je ne crois pas être super informée après avoir lu un seul ouvrage, mais je crois que justement le mythe tient une place importante et j'aimerais connaître quelle place les mythes occupent pour les peuples autochtones.
Bon, il faut d'abord parler de peuples autochtones, ce qu'on entend par peuple autochtone. À l'heure actuelle, il y a entre 3000 et 7000 langues vivantes dans le monde. Seulement pour vous donner une idée de combien de peuples il peut y avoir. Alors, imaginons qu'on essaie de définir le mythe dans 7000 cultures différentes. Ça va être très difficile. Je vais donc prendre un exemple très plus particulier. Alors, chez les Algonquins en général, les Algonquins ont leur propre genre. Alors, le mythe, là, c'est un mot qui vient de chez nous, mais les Algonquins ont leur propre genre littéraire. Il y a le Tepachimoun puis la Tnoukan. Ça, c'est chez les Inuits, mon exemple. Le Tepachimoun, ça correspond aux nouvelles ou aux histoires. Par exemple, le journal télévisé, c'est des Tepachimoun. Le Tnoukan correspond à légendes, mythes, etc. Mais un peu à l'inverse de ce qu'on penserait, nous, pour les Inuits, traditionnellement, si le Tepachimoun peut parfois être mensonger, ce n'est pas le cas des Tnoukan qui coulent de sources sûres. Alors, ce qu'on entend par mythe, c'est vrai pour les Autochtones. Et ce point-là est extrêmement important parce que c'est là-dessus que je me base pour éclairer les éléments bizarres des mythes qui apparaissent complètement invraisemblables et pour montrer qu'en dessous de ça, il y a vraiment du sens que ces éléments-là revêtent. En plus, il faudrait se parler peut-être un peu du côté sacré des mythes, parce que chez beaucoup de peuples, les mythes sont sacrés, mais encore là, faut-il distinguer des mythes qui pour eux sont sacrés de d'autres mythes qui pour eux ne sont pas sacrés, comme des mythes qui vont parler des comportements animaux. Enfin, en ce qui a trait aux mythes, il y a aussi toute la question du contexte du mythe, quand il était raconté. Dans certaines cultures, ça obéit à des règles très précises. Si les femmes pouvaient les raconter, si les hommes pouvaient les raconter. Malheureusement, à cet égard, les femmes racontaient des mythes entre eux et les anthropologues étant surtout des mâles, les mythes racontés par des femmes ne brillent par leur absence, si vous voulez, dans la documentation. Mais ça, c'est en train d'être corrigé, mais quand même, traditionnellement, on rapportait plus des mythes d'informateurs masculins.
Et là, justement, la nature, les animaux, ou plus généralement le monde environnant, prennent une place importante dans les mythes. Et qu'est-ce que ça représente, finalement, la nature et les animaux dans les mythes?
Le monde environnant, par monde environnant, moi, en ce qui a trait aux mythes et aussi dans les autres domaines, j'entends non seulement le milieu physique, là, les plantes, les animaux, les minéraux, les astres, etc., mais aussi l'environnement humain, c'est-à-dire la composition du groupe et les règles qui les déterminent. Il est souvent question d'environnement physique dans mon analyse, et cet environnement physique-là joue d'abord un rôle de contexte du mythe, là. Le désert souvent pour les Tohono O'odham de l'Arizona, l'Arctique, pas l'Arctique, l'Arctique et les espèces nordiques pour les Inuits, la mer et les espèces maritimes pour les peuples de la côte nord-ouest, etc. Alors, il y a des milieux, puis là, on voit bien que dans le mythe, là, c'est très utilisé. Aussi, en ce qui a trait au milieu ambiant, il faut ajouter que, admettons qu'on prend seulement les êtres animaux, ils sont souvent, le plus souvent, anthropomorphisés. C'est-à-dire, par exemple, un lièvre, bien qu'il soit herbivore, va, dans un mythe, être un chasseur. Ça reste l'étant, l'importance de la chasse dans la société où ce mythe-là est raconté. Alors, on peut dire qu'en général, le mythe reflète le milieu. Il y a ensuite aussi la question des emprunts de mythes de peuples voisins, mais encore là, ces emprunts-là obéissent à certaines règles et souvent sont transformés dans le mythe, dans la culture qui reçoit le mythe d'un voisin en changeant les éléments physiques, en changeant les personnages. Je vais en parler un peu plus loin de ça en ce qui concerne un motif qui s'appelle l'autre maladroit.
Et pour les mythes, c'est pas rare de retrouver plusieurs variantes d'un même mythe, là. Par exemple, dans le cas du poisson à valeur, vous recensez dans votre ouvrage une vingtaine de variantes, sinon plus. Donc, la circulation des récits mythiques, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressée quand j'ai parcouru les chapitres sur les mythes, parce que, justement, il se développe plusieurs variantes. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus à ce propos-là? Comment circulent les récits mythiques? Puis, est-ce qu'ils portent les mêmes enseignements, la même signification lorsqu'ils se transfèrent d'un peuple à l'autre?
Dans le poisson à valeur, qu'on reprend comme exemple, là, je n'ai pas fait une recension complète, là, j'en ai une vingtaine de variantes différentes. Par contre, j'ai écrit un ouvrage avant celui-là qui s'appelle L'autre maladroit et j'ai recensé en Amérique du Nord pas loin de 400 versions du même mythe.
Wow.
Alors, certains mythes se prêtent mieux à voyager d'un peuple à l'autre et parfois transgressent même la barrière des langues. Un mythe voyage entre des mêmes peuples de la famille algonquienne. Alors là, je fais une petite parenthèse, là. Algonquien, algonquin. Algonquin est une langue. Algonquien est une famille linguistique qui comprend l'algonquin, le Micmac, le Kri, le Innu, etc. C'est l'équivalent de la famille indo-européenne qui comprend l'anglais, le français, l'allemand, etc. Alors, qu'un mythe voyage entre ces groupes-là, c'est comme à peu près normal, là, parce que c'est des peuples de cultures semblables. Mais quand un mythe commence à transgresser cette barrière-là, puis à voyager parmi des gens aussi différents que les Tohono-O'odham du désert de l'Arizona, que les Inuits du subarctique, comme c'est le cas dans l'autre maladroit, ben là, ça devient extrêmement intéressant. Et c'est cette facilité-là pour ces mythes-là, il y a une raison à ça. En ce qui concerne l'autre maladroit, c'est un personnage qui est invité par un animal à manger, puis par après, il va essayer de l'imiter, et puis il va échouer dans son imitation. Alors, c'est des mythes assez loufoques, là. C'est une raison pourquoi ça circule très bien. Et aussi, le thème lui-même permet de changer l'animal quand il va dans une autre culture où l'animal est plus important. Votre question comporte aussi un autre aspect qui est important, c'est ce dont j'ai parlé tantôt, la différence entre l'enseignement, ou on peut dire la morale du mythe et le sens qu'il revêt. Dans le cas de l'autre maladroit, il est invité par quelqu'un et il lui refait une invitation par la suite. Alors ça rejoint l'ensemble des cultures amérindiennes, là, même de peuples très différents, en ce qui a trait à comment traiter un étranger, un visiteur qui vient chez vous, on lui offre à manger. L'autre maladroit est très important à cet égard-là. Mais ça, c'est le message du mythe, c'est la morale du mythe. C'est recevez bien votre voisin et essayez pas de l'imiter, là, mais faites-le à votre manière. Ça, c'est le message. Mais le sens est très différent quand on prend les éléments du mythe, là, et qu'on les analyse. On va avoir l'occasion d'y revenir aussi.
Oui, certainement. Vous avez mentionné au début de l'émission que vous avez fait des enquêtes de terrain. Donc, si le travail dans les sources documentaires est nécessaire, les enquêtes de terrain sont importantes et voire déterminantes en anthropologie. Quelle place ça occupe, les enquêtes de terrain, dans le travail d'un anthropologue?
L'anthropologie, comme discipline dite scientifique, se définissait de façon classique par une enquête approfondie sur le terrain qui comportait un séjour d'une année au moins, l'apprentissage de la langue locale et un concept là, qui circule en anthropologie qui est l'observation participante, c'est-à-dire une implication pratique de la part de l'ethnologue dans la vie quotidienne de ceux qui l'étudient. L'ouvrage là, dont on parle aujourd'hui, L'écho des ondes, n'est pas basé sur un séjour de terrain. Elle s'appuie par contre sur plusieurs anthropologues qui ont fait des séjours de terrain, que ce soit France Boas sur la côte nord-ouest, Venture Gillen en Australie, Françoise et Pierre Grenat en Guyane française et d'autres. Mais c'est mes séjours de terrain qui m'ont permis, à mon avis, de bien utiliser les données rapportées des autres. Comme je l'ai dit, j'en ai fait beaucoup de séjours de terrain. Quand j'ai fini mon doctorat dans les années 90, je considérais que je ne méritais pas un doctorat parce que j'avais rédigé une thèse et j'avais pas rempli ce devoir-là que je m'étais imposé un peu de vouloir faire un terrain d'un an, etc., d'apprendre la langue comme il faut, etc. Alors, quand je suis arrivé au Musée canadien des civilisations, ben là, j'ai eu l'occasion, là, j'ai fait à peu près 13 mois de terrain. Pas d'affilée, mais au moins 13 mois. Puis à partir de ce moment-là, j'ai considéré que je méritais le titre d'anthropologue.
Ben, j'espère, oui, mais justement, c'est quelque chose que, justement, en histoire, on fait très peu de travail de terrain, donc moi, j'ai trouvé ça super intéressant d'en apprendre un peu, là, surtout à la lecture du poisson à valeur, là, vous avez fait des enquêtes de terrain auprès des Inuits, donc c'est ça, cette dimension-là de terrain m'apparaissait vraiment intéressante. Dans votre ouvrage, vous examinez en profondeur par l'analyse basique, donc 5 mythes, vous avez parlé de l'autre maladroit et nous avons déjà évoqué le mythe du poisson à valeur. Donc des mythes, 5 mythes dans votre ouvrage qui ont été développés par des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Donc on va continuer avec le récit du poisson à valeur puisqu'on en a déjà un peu parlé. Donc comme nous l'avons dit dans la variante du récit des Ojibwés septentrionaux, Jacques Habiche, le jeune héros, se fait avaler par un poisson géant. Sa sœur commence à s'inquiéter et va partir à sa recherche. Elle se rend là où la rivière, où le poisson, à la rivière finalement, où le poisson a avalé Jacques Habiche, et là va voir les vêtements de son frère. Elle va donc décider d'appâter le poisson avaleur. Elle va l'attraper et va délivrer son frère du poisson en découpant le poisson soigneusement. Donc, qu'est-ce qu'enseigne ce récit mythique-là au peuple autochtone qui le raconte et justement aux Ojibwés septentrionaux?
On va séparer il y a des enseignements de plusieurs ordres, là, mais on va parler tout de suite des enseignements en dehors des connaissances pratiques et théoriques là, sur les poissons qu'on élucidera un peu plus tard. En ce qui concerne les enseignements, je vais vous donner juste deux exemples là, parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, le poisson à valeur enseigne aux jeunes filles les précautions à prendre lors du découpage du poisson. Alors, comme vous l'avez dit, Jacques Habiche se fait avaler par un poisson et à la fin, il est libéré par sa sœur. Mais au moment où sa sœur vient pour prendre le poisson, elle ne sait pas que Jacques Habiche est à l'intérieur et lui crie de l'intérieur, attention, attention, tu vas souiller le poisson. Alors, à mon avis, l'image est assez forte, surtout si le mythe est répété plusieurs fois et si on est un enfant, pour se rappeler quand on va découper un poisson, qu'on soit une jeune fille ou un jeune homme, là, ça n'a pas d'importance, qu'il faut faire attention pour pas souiller le poisson, c'est-à-dire percer les intestins et les organes intérieurs. Un autre aspect d'enseignement d'ordre éducatif, c'est au début de cet épisode-là, parce que Jacques Habiche, moi je prononce Jacques Habiche parce que j'utilise le nom Innu, vous prononcez Jacques Habiche parce que vous utilisez le nom Ojibwé. Alors, Le Tchakapèche, dans Tchakapèche, la jeune sœur lui dit, comme à chaque début d'épisode de ce cycle-là, parce que c'est un très long cycle, il n'y a pas juste l'épisode du poisson en valeur, elle lui dit toujours, ah, fais pas ci, fais pas ça, puis dans ce cas-là, va pas chercher tes fesses dans l'eau parce qu'il y a un gros poisson qui pourrait t'avaler. Qui pourrait t'avaler. Alors, effectivement, le héros se fait avaler et un des enseignements sous-jacents, c'est évidemment de d'écouter parce que Tchakapèche est un enfant qui vit avec sa sœur aînée, qui a en charge son éducation parce que ses parents sont morts. Alors, c'est d'écouter celui qui t'éduque.
Et là, vous avez dit justement que Tchakapèche criait à sa sœur quand il était à l'intérieur du poisson de découper le poisson soigneusement. Donc, tout au long, le quand Tchakapèche est dans le ventre du poisson, il joue un rôle actif dans le récit. Donc, qu'est-ce que ce rôle actif signifie?
Là, on a parlé d'un exemple. Je vais vous en donner deux autres. À un moment donné, le jeune héros qui est à l'intérieur du poisson, c'est lui qui dit au poisson où aller, parce que sa sœur, elle a tendu une ligne avec un hameçon, là, une ligne dormante au bout d'une pointe ou près de la rive. Là, ça dépend des variantes, il y a plusieurs variantes. Et c'est Tchakapèche, c'est pas le poisson qui décide d'aller vers l'hameçon, c'est Tchakapèche qui dit au poisson, bon, dans une variante, il va dire « Approche-toi, va en eau peu profonde sur le bord de la rive. » Or, dans ces variantes-là, il se trouve que le poisson, c'est le grand brochet. Mais c'est pas le grand brochet partout, mais dans la variante où il dit « Va sur le bord, en eau plus profonde », c'est le grand brochet. Et c'est connu de tous les dialogues que le grand brochet, c'est un de ses habitats préférés. Un autre rôle actif là, du héros, c'est que c'est lui-même qui va prendre l'hameçon à l'extérieur du poisson et l'amener à l'intérieur du poisson pour que le poisson soit pris. Ça existe par exemple dans une variante où explicitement c'est dit que le poisson venait de manger, bien évidemment il y a Tchakapèche dans son estomac, alors il n'y a pas tellement faim. Alors c'est peut-être pour résoudre sur le plan du récit une petite difficulté qui s'était glissée.
Quand on l'explique effectivement, c'est très très logique. Mais justement, là, je me dis, le poisson est plein. Et là, c'est pour ça que Tchakapèche là, joue un rôle actif. Et c'est vraiment intéressant. Tout a été pensé. Et là, vous avez parlé un peu de différence entre les sortes de poissons. On peut aborder, là, justement, c'est l'occasion. Vous qualifiez de leçon zoologique ou technologique là, à la fin. En fait, lorsque vous analysez le poisson à valeur, vous dites qu'il y a des leçons zoologiques et technologiques qui peuvent être données dans le récit et dans ses variantes. Donc, j'aimerais savoir justement quels sont ces types de leçons-là.
Bon, on va commencer au niveau des techniques de la pêche. Il y en a plusieurs qui sont évoquées, puis ça dépend aussi encore des variantes. Mais dans plusieurs variantes, c'est la pêche à la ligne dormante. Dans une autre variante, la sœur du héros va, lorsqu'elle va prendre le poisson, donner un coup de massue sur la tête du poisson pour l'achever, qui est une technique de pêche. Alors, le mythe fait allusion, et dans un contexte de pêche, il fait allusion à des techniques très précises. Mais il faut se rappeler là, que ces mythes-là sont contés à des enfants, mêlés à des adultes, le soir, etc. Alors, c'est répété, quelque chose que les enfants apprennent à reconnaître, etc. Il y a aussi des leçons zoologiques, ça c'est le plus important, c'est de répondre à la question pourquoi une question qui porte sur un élément quand même assez bizarre, là, c'est pourquoi un héros se fait avaler par un poisson, parce que c'est pas normal, le poisson il a beau être grand, là, je vais y revenir, mais c'est quand même un enfant, pourquoi il se fait avaler par un poisson, et surtout pourquoi dans certaines variantes il va sortir en putréfaction ou le corps complètement couvert de poils, puis il va se raser puis en laisser seulement à certains endroits. Je vais d'abord dire que dans toutes les versions recensées, je suis arrivé à identifier trois poissons. Il y avait selon les variantes, là, il y a trois poissons qui sont utilisés dans ce mythe-là. le grand brochet, l'ombre de fontaine et le toulet. Alors, ces poissons-là, évidemment, un poisson apparaît dans une version, un autre poisson apparaît dans une autre version, mais l'ensemble d'une vingtaine de versions donne ces poissons-là. Or, comme le savent mes informateurs, d'ailleurs, c'est pour ça que mes séjours sur le terrain, j'en ai fait un, par exemple, chez les cris de la baie James, uniquement sur le poisson, dans le contexte d'une étude sur le mercure, et les clés avec lesquelles je travaillais, chez qui je suis resté, m'ont dit effectivement que le grand projet, l'ombre de fontaine et le tout-platis avaient un point en commun extrêmement intéressant. Moi, j'en étais pas du tout au courant, et ça a été confirmé par, là, je vous fais la rire, là. Ça a été confirmé par mes recherches dans des sources plus scientifiques. Ces trois poissons-là avalent des musaraignes, des souris, même des petits canetons. Alors, qu'une personne ouvre un poisson et trouve un être tout poilu à l'intérieur, qui est un mammifère, qui est un animal, comme nous sommes des animaux, est tout à fait probant. Et qu'il soit tout poilu est tout à fait probant aussi. Et comme pour authentifier le mythe, le héros, à la fin, il va se raser partout sur le corps et il va laisser du poil sur la tête, les cheveux, le poil, un peu de moustache et un peu de poil pubien. Et moi, j'appelle ça des sauts d'authenticité. Ça ferme beaucoup, ça ferme plusieurs récits. Et c'est comme si le conteur, il faisait un petit clin d'œil, puis il disait, bon, regardez, là, vous voyez bien, on est comme ça, fait que le reste de ce que je vous raconte est aussi vrai. Puis là, j'ai oublié peut-être un détail, c'est que le poisson est en train d'être, est en train d'être digéré. Alors, plusieurs variantes, mentionnent que le héros Et il sent mauvais ou il est en putréfaction. Alors, c'est des timons du récit.
Donc, c'est ça, ça l'explique vraiment la réalité et ce qui est très probable d'arriver lorsqu'on pêche. Faisons maintenant une petite pause publicitaire et nous reviendrons par la suite pour une deuxième partie d'émission.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
La fin de semaine arrive et vous avez besoin de suggestions pour accompagner votre souper du samedi? L'Espace JC est là pour vous donner des conseils et vous en apprendre plus sur les vins, bières et spiritueux. En compagnie d'experts, nous vous divertirons tout en humour et sans prétention pour votre plus grand bonheur. L'Espace JC, c'est tous les vendredis dès 22h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire pour une émission sur l'analyse basique en anthropologie en compagnie de M. Daniel Clément, anthropologue. Avant la pause, nous avons discuté de la démarche basique, mais aussi du travail de l'anthropologue. Nous avons également discuté de certains mythes, dont là, ici, vraiment plus question du poisson avaleur, puisque nous avons mentionné à quelques reprises aussi le mythe de l'autre maladroit. Si la première partie de votre ouvrage, M. Clément, est dédiée aux mythes, mythèmes et timons, eh bien, la deuxième partie se concentre pour sa part sur les rites. Alors maintenant, attardons-nous sur le rituel ou les rituels. Vous écrivez notamment dans votre partie sur les rites, qui est la deuxième partie de votre œuvre, comme les mythes, les rites se prêtent aussi avantageusement à l'analyse basique. Pourquoi?
Ce que partagent les rites et les mythes au départ du point de vue de l'analyse basique, c'est leur étrangeté respective. Alors, c'est aussi étrange de voir un poisson qui avale un héros ou un autre mythe qui parle d'un vagin denté qui menace de castration un héros que de prendre connaissance de pratiques comme l'ablation des dents chez les jeunes chasseurs aborigènes australiens ou la danse du soleil dans les plaines américaines où les participants sont amenés à se faire exploser littéralement la peau de leur poitrine en tirant sur des cordes qui ont été au préalable insérées sous la peau. Alors, dans tous les cas, c'est la même question qui se pose. Pourquoi de telles pratiques? D'où viennent-elles? Peut-on espérer mieux les comprendre et les accepter en retraçant leur fondement ou étymon?
Et comme on a défini un peu les mythes tout à l'heure et leur importance, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui distingue les mythes des rites?
Alors, au risque de faire un truisme, là, je dirais que les mythes sont racontés et les rites pratiqués. Par ailleurs, la ligne qui sépare les deux est parfois très mince, puisque de nombreux rites s'appuient sur les mythes. Par exemple, en Australie, les mythes racontent comment les humains en sont venus à connaître la circoncision, comment au départ celle-ci était pratiquée à l'aide du feu, et comment un personnage mythique a introduit le couteau qui a amélioré le rite au point tel que moins d'individus circoncis mouraient de l'opération.
Encore une fois, pour expliquer justement, normaliser des comportements, expliquer la vérité de ce qu'on peut retrouver et ce qu'on est à même de pratiquer. Et la nature joue encore une fois un rôle important, là, comme dans les mythes, elle joue un rôle important dans les rites. Quelle place joue le monde environnant dans les rites?
Il joue le même rôle que dans les mythes, et j'entends par monde environnant la même chose, autant les plantes, les animaux que le milieu ambiant. Il est la toile de fond, comme dans les mythes, des pratiques rituelles, puis il est la source d'inspiration des pratiques rituelles. Je vais te donner juste un exemple. En Australie, l'ablation d'une ou de deux dents chez les jeunes aborigènes est un rite de passage de l'adolescence à l'état adulte. L'examen des versions et des mythes associés a permis de mettre à jour l'étymon du ritem, le ritem étant l'ablation de la dent, qui est celui de l'appropriation des pouvoirs d'un chasseur par excellence, le dingo. Le dingo, c'est comme un loup. Et plus anciennement, le tigre de Tasmanie, qui était un autre loup. Deux carnivores au sujet desquels des études scientifiques ont montré une perte de temps. 25% des loups examinés, par exemple, dans une étude, montraient une fracture des dents. Alors, en imitant ça, d'ailleurs, dans tout ce rituel-là, ils imitent continuellement des dingos et l'ablation de la dent va de pair.
Et dans là, deux rites que vous avez recensés dans votre ouvrage m'apparaissaient intéressants à explorer un peu plus. Donc, dans l'imaginaire collectif, la scarification est sans doute l'un des rites qui vient le plus rapidement à l'esprit, notamment parce qu'on en a des représentations médiatiques. Donc, en quoi consistait la scarification chez les aborigènes d'Australie, puisque vous les avez étudiés dans votre ouvrage?
Bon, par scarification, là, on entend des cicatrices pour embellir le corps qui sont faites de façon rituelle ou non. On peut faire des scarifications, puis c'est pas nécessairement de façon rituelle. Alors, le processus général était le suivant, là. Entre l'enfance et l'adolescence, chaque individu, garçon ou fille, se faisait inciser un certain nombre de fois sur différentes parties du corps, lesquelles, en guérissant, formaient des cicatrices surélevées et permanentes. C'était surtout pratiqué chez les hommes, là, comme rite de passage. Chez les femmes, c'était plus comme ornement. Dans une certaine partie de l'Australie, la scarification est évoquée dans un mythe où un crocodile demande à un autre d'être incisé. Or, de l'aveu même des aborigènes concernés, la scarification était un moyen de s'approprier les pouvoirs de ce terrible prédateur. Alors, on a encore la même mentalité qu'on le voit dans les dingos. Dans ce cas-là, un ethnologue l'a rapporté. Il disait que ses informateurs lui avaient dit que les caractéristiques désirables du crocodile, la force, la férocité et la ruse, étaient symboliquement transférées à l'initié au moyen de ses incisions sur le torse, imitant les écailles de crocodile. C'est pas moi qui le dis.
Vraiment intéressant. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Et
cet exemple, en fait, montre que je ne suis pas le seul à faire de l'analyse basée. Les Australiens aussi.
Et justement, je trouvais ça super intéressant parce que c'est pas concentré sur une seule région géographique. Là, c'est vraiment, vous faites un portrait là, vraiment intéressant de plusieurs peuples autochtones à travers le monde. Donc, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, cet ouvrage-là. Pour l'une des raisons pour laquelle j'ai trouvé intéressant, c'est pour ça. Donc, une autre pratique, un autre rite que vous avez parlé dans votre ouvrage, c'est la danse du soleil. Et encore une fois, la danse du soleil, on a souvent une représentation un peu médiatique là, qu'on s'en fait à l'esprit. Donc, c'est souvent erroné. J'ai trouvé ça intéressant d'apprendre dans votre ouvrage que justement la danse du soleil, ça a pris un sens à une certaine époque qui est pas nécessairement ce qui était pratiqué chez les peuples autochtones. Donc, d'où vient le nom danse du soleil et en quoi ce complexe cérémoniel consistait-il?
Le temps du soleil, ça vient de divers chroniqueurs là, du 18e et 19e siècle qui ont décrit des cérémonies qui étaient tenues chez les Sioux, les Cheyennes et les Arapahos et qu'ils ont qualifié en anglais là, de Sun Dance pour diverses raisons. Parfois, c'était le nom même de la cérémonie dans la langue autochtone ou d'autres fois, ça ne l'était pas et c'était des fausses interprétations selon lesquelles les Amérindiens auraient adoré le soleil. En réalité, là, si on regarde les noms vernaculaires eux-mêmes, là, c'est ça. Il y en a certains qui font appel au soleil, mais en grande partie, ça ne fait pas appel au soleil. Les noms dont les équivalents, là, je vais en donner quelques-uns, la danse sans boire, la danse de la soifée, la danse de la nouvelle vie. Alors, ça fait peut-être référence parfois au soleil, mais très rarement. C'était un complexe cérémoniel là, qui comprenait beaucoup de choses. Là. Une suerie, des danses, des transferts de pouvoir, un hôtel, une structure cérémonielle qui variait selon les divers peuples. L'événement était tenu une fois par an, puis rassemblait tous les membres de la tribu. Il avait lieu dans une espèce d'enceinte recouverte de branchages sur les côtés, mais dont le toit demeurait ouvert. Au centre, il y avait un mât sur lequel on peut mettre des effigies d'animaux. Il y a plusieurs animaux qui étaient associés à ce rite-là, dont le bison et l'aigle. Au départ de la cérémonie, quelqu'un faisait un vœu pour être guéri, pour que quelqu'un d'autre soit guéri, pour revenir vivant d'une bataille menée contre un autre groupe, etc. La cérémonie était en fait aussi souvent associée aux chasses collectives, aux bisons et aux exploits militaire. Mais le plus important dans tout cela, le plus spectaculaire, c'est que l'auto-torture était aussi pratiquée, c'est-à-dire comme je l'ai évoqué, en s'insérant des chevilles sous la peau vis-à-vis les seins et en attachant ces chevilles-là avec une corde sur un bois central, là, à peu près à, disons, 10 mètres de distance et en se projetant avec force par en arrière jusqu'à arracher. Moi-même, là, j'ai fait un terrain chez les Idatsas, mais là, j'en parle pas, je pense, dans mon livre, mais j'ai rencontré un Idatsa, puis ça faisait, je pense, 45 fois qu'il faisait la danse du soleil,
wow.
Puis il m'a montré sa poitrine, et laissez-moi vous dire que je pense que jamais je ferai la danse du soleil.
Ah ouais.
Non, c'est ça, c'est quelque chose d'assez, d'assez impressionnant comme
oui.
Rite.
Oui.
Là, on va faire un petit saut dans le temps, dans les pages de votre ouvrage, parce qu'on va s'intéresser plus profondément à la troisième partie, donc qui se concentre sur les techniques. Donc, encore une fois, l'approche basique se révèle fort intéressante afin de comprendre l'humain, comment l'humain s'inspire de son milieu pour développer et perfectionner des techniques. Pourtant, la conclusion à laquelle vous arrivez dans votre ouvrage, selon laquelle le monde naturel a inspiré la découverte et l'amélioration des techniques, a, comme vous le notez dans l'introduction de votre partie, été assez ignoré par le passé. Comment le développement des techniques par l'homme a-t-il été expliqué par le passé et notamment par les autres disciplines autres que l'anthropologie?
Bon, en gros, là, en philosophie, en archéologie, en histoire des sciences, on parle très, très rarement du rôle des humains dans... Ben, pas du rôle des humains. Le rôle des animaux ou, enfin, du milieu ambiant, de l'environnement, comme si les humains avaient reçu des idées directement du ciel pour inventer des techniques. Il y a même quelqu'un qui a écrit un ouvrage très imposant sur l'histoire des techniques et qui dit que à aucun moment de l'histoire, la nature n'a à apporter à l'homme la moindre parcelle d'idées. Mais il fait fi là, de tout ce que l'anthropologie enseigne.
J'ai été vraiment justement surprise parce que ça m'apparaît, peut-être parce que justement j'avais déjà lu deux chapitres sur l'analyse basique, mais pour moi ça m'apparaissait juste simple et logique que justement les animaux, la nature aient inspiré l'homme, mais bon, on peut pas revenir sur les décennies, les siècles antérieurs, et justement c'est ce qui fait la beauté de l'analyse basique aujourd'hui, je trouve que ça apporte un regard plus juste sur la réalité et justement sur l'évolution de l'homme. Et les aigles, dans votre chapitre justement sur la technologie, on va parler un peu des fausses à aigles, le piégeage à l'aigle au moyen d'une fausse. C'est plus simple comme ça, dit comme ça. Donc les aigles, c'était très important dans les cultures amérindiennes. Et là, je vais vous citer un tout petit peu. De nombreuses croyances et mythes relatifs aux oiseaux tonnerres imprégnaient considérablement la vie sociale et cérémonielle de groupes répandus sur tout le continent nord-américain. Le piégeage à l'aigle au moyen d'une fausse était une pratique de chasse que vous qualifiez avec raison des plus spectaculaires, des plus dangereuses et des plus ritualisées. Pourquoi?
Ça se tenait beaucoup sur les plaines. Là. J'ai moi-même fait un terrain là, directement sur ce sujet-là. Là. Je suis allé rencontrer des états. Il y avait des rituels de préparation, mais je vais passer là-dessus. Là. La chasse elle-même consistait à creuser une fosse assez grande pour loger un homme couché sur le dos. Laquelle fosse était ensuite recouverte de branchages. Un appât était placé sur les branchages, par exemple un lièvre vivant. Et lorsqu'un aigle se posait sur les branches, le chasseur en dessous devait s'en emparer en le saisissant par les pattes. C'était extrêmement dangereux et il fallait vraiment être vite et ferme parce qu'il y a des cas qui sont rapportés où des chasseurs sont morts.
Et l'inventeur de la technique de la fosse à l'aigle est toujours un animal selon les mythes d'origine. Qu'est-ce que ça signifie?
Bon, encore une fois, sans entrer trop dans les détails, là, parce qu'il y a eu une espèce de débat dont je fais partie sur l'animal en question qui, pour certains, c'est un carcajou et pour la plupart des gens, c'est un ours. Alors, moi, j'ai examiné beaucoup de versions. Là. Un, la majorité d'entre elles identifie le personnage inventeur de la fosse comme étant un ours, rarement le carcajou. Deuxièmement, la mention du carcajou est le fait des interprètes qui ont rendu comme tel le terme vernaculaire qu'utilisaient les informateurs. Alors, il a fallu que je retourne à la source, là, à savoir le nom vernaculaire. Troisièmement, il n'y a pas de carcajou dans ces régions-là où l'on chassait l'aigle à l'aide d'une fosse. Quatrièmement, nos informateurs ainsi que d'autres ethnologues ont rendu le terme vernaculaire, que certains ont dit que c'était un carcajou, par ours et non par carcajou, comme il apparaît bon dans la documentation. Les langues mandans et l'Idata ont deux termes distincts pour différencier les ours bruns et les ours noirs. Il n'y a pas de carcajou, et en réalité, ça existe, les ours bruns et les ours noirs, mais en réalité, il n'y a pas de carcajou brun et noir. Et ça, c'est une composante importante du rite, là, qui est du rituel puis du rite de cette chasse-là. Alors, ça ne peut être qu'un ours dans ce contexte-là. Finalement, il y a des détails sur le comportement du personnage inventeur de la fosse dans les mythes qui ne peut être que proposeur jamais à un carcajou.
Et avant de... Parce que là, c'est presque déjà la fin de l'émission, mais j'aimerais vous poser une dernière question avant que l'on se quitte. Donc, à la fin de votre ouvrage, alors que je terminais la conclusion, une question m'habitait, là, et vous faites la preuve, là, très convaincante d'ailleurs, pour ma part, que l'analyse basique est une démarche mise en place afin de mieux appréhender et comprendre les phénomènes étrangers. Donc, je me demandais, est-ce qu'à l'heure actuelle, l'analyse basique, là, vous avez mentionné un exemple tout à l'heure, est-ce que l'analyse basique trouve un écho important et plus prononcé depuis la publication de votre ouvrage dans les recherches en anthropologie?
Le livre est trop récent là, pour ça. Là. Ça fait à peine 3 ans que c'est paru. Et en anthropologie, comme dans les sciences sociales, là, ça prend beaucoup de temps avant de se frayer un chemin. Bon, malgré cela, il y a un anthropologue français qui s'y est intéressé et qui a fait un compte-rendu de l'ouvrage de 50 pages. Moi, j'ai jamais vu de compte-rendu de 50 pages. C'est la première fois que je voyais un compte-rendu de 50 pages. Alors, il m'a un peu épaté. Il s'appelle Louis Moreau de Bellin. On peut consulter le résumé du livre, en fait, le compte-rendu, sur le site de l'Association française des anthropologues. C'est aussi difficile en France de percer en ce qui concerne l'analyse basique parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas parlé là, du tout, là, c'est Claude Lévi-Strauss là, qui règne en roi et maître en Europe et aussi en anthropologie en général et contre lequel je m'oppose. Je donne beaucoup d'exemples dans l'écho des autres d'analyse que lui a fait et je présente en contrepartie mon analyse. Mais à cause de ça, je sais que les Français que je connais, les en particulier les anthropologues, rejettent d'emblée mon œuvre. Mais je voudrais quand même souligner, oui, je me le suis fait dire aussi. Ah, j'ai commencé à lire ton livre. Tu parles au début contre les histoires, j'ai pas continué.
Ah, ouais.
Ouais, alors c'est ça la science, hein. Un petit clin d'œil ironique, mais je voudrais quand même dire qu'il y a un séminaire en 2019-2020, tout récent, à l'Université de Strasbourg, que dans la discipline ethnologie et archéologie, qu'on a intitulé, comme par hasard, l'écho de l'autre.
Ooh.
Et comme par hasard, les gens qui font partie de ce séminaire-là me connaissent bien. J'ai enseigné dans leur cours quand j'étais à Paris. Il y en a une qui a fait un compte-rendu d'un de mes livres, La zoologie des montagnais. Il y a un professeur de Strasbourg aussi que je connais très bien parce qu'il devait faire une critique de l'écho des autres, puis il l'a pas fait finalement. Alors, je trouve pas que c'est un hasard et je trouve ça très bien. J'étais très flatté qu'on ait récupéré mon titre et qu'on l'ait donné à un séminaire complet.
Wow! Donc, vraiment, preuve que votre œuvre et vos conclusions sont diffusées, pas juste au Québec, mais aussi ailleurs. Alors, ça a passé vite, déjà 60 minutes d'écoulées. C'est déjà tout le temps qu'on avait pour ce soir. Merci infiniment à mon invité, M. Daniel Clément. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir à l'émission.
Ben, moi, je voudrais remercier Amy Bois pour m'avoir invité. C'est extrêmement gentil et je suis bien content qu'on se soit parlé ensemble de ce livre-là. Merci.
Bien, le plaisir fut partagé et c'est un très bon ouvrage d'ailleurs. Et vous, chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle sera disponible en balado-diffusion dès demain sur le site de Chiz. Vous pouvez également retrouver l'ouvrage L'écho des autres de M. Daniel Clément aux presses de l'Université Laval aux éditions Hermann. Quittons-nous sur une dernière pièce musicale, une belle chanson d'Alanis Obomsawin, l'une des cinéastes les plus distinguées du Canada, chanteuse, artiste et conteuse d'origine abénakise. On écoute un extrait de Bush Lady de l'album du même nom qui est sorti en 2018. Sur ce, c'était Amy Bois à l'animation et c'est toujours un plaisir pour moi de vous accompagner dans ces capsules socio-historiques. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire.
Hey ho ho hey ho hey ho hey ho 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 hey ho hey ho ho hey ho ho hey 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 ho
Bush lady, you want to make love? Big belly. Go home. Go back to your people. Bush lady, you go home now. You hear? Hey ho, hey ho, ho, hey ho, ho, hey ho. Did you hear that bush lady? Why, she got a blonde baby, you know. Hey, ho, hey, ho, ho, hey, ho.